I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'était un mois de novembre en 2020. Ça a commencé avec Boulanger. On s'est dit, bon, le site, il tient pas, c'est pas grave, c'est pas si énorme que ça. Et puis, la Fnac a pas tenu non plus. Là, il y a un ou deux sourcils qui sont levés. Et après ça, Auchan est tombé. Là, on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et enfin, en début d'après-midi, l'impensable, l'inimaginable, Amazon n'a pas tenu le choc. L'explosion de l'Internet français était avérée. La PlayStation 5 avait tout détruit sur son passage. Bonjour à tous, je suis Patrick, c'est le rendez-vous jeu. On parle de l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile. Bon, surtout console aujourd'hui et surtout PlayStation 5. J'ai avec moi, pour parler de tout ça, je vois la chatroom qui rigole un petit peu, au moins un petit peu. Ok, merci. C'était drôle, non, cette super intro? Non, ok, je ne referai plus, promis. J'ai avec moi, pour parler de tout ça...
Je ne commenterai pas.
Dany, qui, comme toujours, est, me soutient depuis son Angleterre. Comment ça va, Dany?
Très très bien, et toi? Enfin, moins bien que moi, j'imagine, mais on en parlera plus tard.
J'ai l'impression, je crois savoir que tu as une PlayStation 5 à la maison, c'est ça?
C'est peut-être possible.
Je ne te parle plus, je me retourne plutôt du côté de Priscilla. Ça va, Trinity, t'es en forme?
Eh ben, ça va très bien, et moi j'ai adoré ton intro, je dois dire.
Ah, merci, voilà. Merci. Tu vois, il y en a qui ont une appréciation pour le talent dramatique.
Tête, là. Il va prendre la grosse tête.
Mais, tu vois,
ça a posé une ambiance et tout, moi j'ai kiffé. Hein.
Trinity, c'est quelqu'un de bien, je suis sûr qu'elle n'a pas de PlayStation 5 non plus. Pas de PlayStation 5 non plus, t'es quelqu'un de normal, toi.
Bien sûr, je vais te décevoir. Bah si, j'en ai une et je l'ai même eue une semaine avant tout le monde.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si c'est comme ça, je me barre. Bon, ça va être compliqué de faire un podcast sans vous, donc on va dire qu'on va rester quand même. Et puis, j'ai beaucoup travaillé à un truc qui va peut-être se produire dans quelques minutes, on va voir. Mais j'espère que les choses pourraient bien se passer, on va voir. En attendant, on va donc commencer... Bon, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, et puis on va commencer en parlant de ce lancement qui est vraiment assez inattendu, même si on savait que la PlayStation 5 était populaire et qu'il y avait plein de gens qui voulaient la commander et qui n'avaient pas réussi à faire les précommandes. Ce niveau d'activité sur les sites, c'était un petit peu surprenant. Mais avant ça, donc, les remerciements aux patriotes qui soutiennent l'émission. Nicolas Loubet, Mathieu, Maujoin Christophe, Phil, Benoît, Wood, Edgar Rosa, Guillaume Payot, Rivaillon, Murmaxon. Non, mais il y en a qui mettent des noms. Enfin, c'est peut-être ton vrai nom, mais sinon, c'est fait spécialement pour me faire trébucher. Colonel Scudard et les... producteur, qu'on remercie tous les épisodes, Bazou42, Lancelot Davizard et Chulrac. Merci à vous tous de soutenir cette émission. Merci aussi à la chatroom d'être présente sur Twitch. Et si vous écoutez en différé, en podcast normal, sachez qu'on est sur Twitch, twitch.tv/notepatrick. Tous les enregistrements se font sur Twitch désormais et c'est un moment fort sympathique qu'on partage ensemble. Alors... le premier sujet, je crois que c'est vraiment, même avant de parler de la PlayStation 5 elle-même, sur laquelle vous pourrez nous donner vos impressions, parce que vous, vous l'avez depuis quelque temps, contrairement aux gens normaux, aux gens de la plèbe, aux gens qui ne sont pas des privilégiés, des nantis, comme moi, eh bien, il faut parler, oui, du lancement, parce que moi, j'étais debout tôt, enfin, debout tôt, parce qu'il y a mon fils qui m'a réveillé, mais en plus de ça, devant mon ordinateur, aux différents horaires qui avaient été établis, que ce soit en Finlande, parce que moi je vis en Finlande, ou en France, pour faire des précommandes, et littéralement, moi, sur les sites finlandais, la seconde où elle était disponible, elle a immédiatement été plus disponible. J'étais dans une queue de 15 minutes, et puis au bout de 2 minutes dans la queue, ça disait « Vous êtes dans la queue pour accéder au site, mais des PlayStation 5, il n'y en a plus ». Ok, d'accord, super. Deuxième truc, à 11h, pareil. Les stocks à la FNAC, ils sont non seulement partis en 2 secondes, mais le site a explosé, comme je le disais dans cette magnifique intro. J'ai également vu ça dans, sur les autres sites, que ça soit Boulanger, Cdiscount. Enfin, Cdiscount a peut-être un petit peu mieux tenu, mais même Amazon. Alors Amazon, le site entier n'est pas tombé non plus, mais la page de la PlayStation 5 affichait des messages d'erreur pendant longtemps. Et même le site de la FNAC a croulé sous la charge pendant longtemps, pendant une demi-heure, une heure, il était difficile d'accès. C'est vraiment la raison pour laquelle je le dis, c'est que c'est inattendu, quoi. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la PlayStation 5, mais on se disait que les sites allaient tenir parce qu'ils ont l'habitude de soldes, de Black Friday, de produits beaucoup plus importants qui attirent une population plus grande. Mais là, c'était vraiment la bérésina absolument partout. Je ne sais pas si vous, ça vous choque autant que moi, mais moi, je suis surpris, quoi.
Ça me choque sans me choquer. Moi, je vais... alors, ça n'a rien à voir, mais moi, je fais beaucoup de concerts, notamment de métal et de festivals métal. Et j'ai l'habitude des sites qui crashent parce qu'il y a trop de gens qui viennent, en fait, se connecter en même temps. Et on est tellement sur... même si les sites sont habitués, c'est vrai que pour Amazon, Fnac, c'est quand même... un peu surprenant, mais on parle de milliers de personnes qui arrivent d'un coup. Même quand il y a les soldes, il n'y a pas forcément cet horaire précis où ça va tomber, etc. C'est un peu plus étalé. Donc, ça me choque sans me choquer. Elle est hyper attendue. Il y avait très peu de stock à la base dans les premières précommandes. Donc, c'est pas hyper étonnant. C'est pas hyper étonnant. Et les sites, en fait, ne sont pas faits pour ça. De manière générale, un site, il va, même aussi gros soit-il, il est prévu pour une certaine bande passante, on va dire. Mais autant de monde comme ça, à une heure très précise, il y a très peu de sites qui tiennent. Ou alors, ils sont vraiment préparés là-dessus, comme justement quand j'achète des places de concert, les sites sont faits pour ça. Voilà.
Mais moi, je suis surpris, en fait. J'aurais été de ton avis... jusqu'à ce que Amazon peine un petit peu. Tous les autres sites, je me dis, ok, c'est pas... Mais Amazon, quand même, faut pas déconner, AWS, c'est l'infrastructure, c'est le backbone d'Internet. J'étais quand même étonné que même Amazon... Alors, il est pas tombé, le site, bien sûr, mais il a eu des difficultés. Et là, je me suis dit, alors, c'est peut-être, on va dire, ok, c'est les bots, c'est les gens qui... C'est les scalpers qui ont 10 comptes et machin... Mais il y a aussi une vraie demande sur les stocks. On ne sait pas exactement. Oui. Peut-être qu'on parlera des stocks dans une seconde. Mais Dany, toi, tu es dans l'e-commerce aussi avec Dell, ton employeur. Donc, tu as peut-être l'habitude de voir comment ça se passe avec ces moments d'influence. Peut-être que tu peux estimer plus professionnellement que nous si c'est surprenant ou pas que ça n'ait pas tenu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, que tous les sites soient tombés?
Au vu des pénuries qui étaient annoncées, je pense que ça se planifiait en fait. Et c'était clair qu'il allait y avoir un surplus de demande. Et par exemple, moi, ce que je vois en termes d'infrastructure IT, etc., côté e-commerce chez nous, tu vois, finalement, par exemple, pour Black Friday, où on sait qu'à certains horaires, il va y avoir des pics d'affluence de demande, etc., on a des outils et des systèmes informatiques qui sont là pour traiter les queues,
bien sûr,
que le site ne plante pas, etc. Et ce qui est intéressant ou marrant là-dedans, c'est que finalement, tu vois, les gros retailers, Fnac, Boulanger, etc., et pas... soit des systèmes justement pour gérer ce flot de demandes, ou alors...
Ah, mais ils en avaient, c'est ça le pire. Ils en avaient, tu vois, la FNAC, par exemple, avait une page d'accueil, d'attente, qui te mettait d'ailleurs un petit Tetris, c'était marrant, mais c'était prévu, tu vois, ils avaient des systèmes de queue, et je suis sûr qu'ils ont augmenté leur infrastructure, au moins certains d'entre eux, mais... parce que...
Moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est est-ce que c'est la même chose en magasin? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce qu'il n'y en a plus du tout? Ou au contraire, est-ce que
en fait,
on fait du click and collect ou des...
Toi, t'es pas au courant. Toi, t'es pas. Alors, ce que les témoignages qu'on a eu de la communauté, notamment Thomas, nous disaient en magasin, c'était compliqué parce que vu qu'ils doivent valider les retraits et les précommandes sur le système informatique, vu que le système informatique était en PLS, c'était compliqué pour les retraits en magasin aussi.
Ah ouais, c'est un système informatique qui est partagé donc entre les systèmes de retrait et le site internet. Ah ouais, c'est moche.
Donc, bon, la grande question en fait, c'est est-ce que c'est parce qu'il y avait trop peu de stocks ou est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de demandes? C'est peut-être un peu des deux, mais au niveau des stocks, moi, je n'ai pas eu d'informations contradictoires, mais d'après ce que d'après ce qui avait été annoncé par Sony ces dernières semaines, il y avait des stocks qui étaient, enfin des fabrications pour l'année 2020 de 19 millions d'unités. Et du coup, c'est... Alors, attendez. Ah ah ! Elle est là !
Elle vient d'arriver.
Merci mon cœur ! Merci mon amour ! Bonjour, salut mon ange. Ciao, ciao. Bon, ah bah, alors, retournement de situation. Écoutez,
bah voilà.
Je trouve que... Alors d'abord, ma femme est quelqu'un d'extraordinaire. Ensuite, retournement de... Écoutez, franchement, j'ai, je veux pas dire un mépris, mais j'ai une considération assez basse pour ces gens de la plèbe qui viennent nous polluer, de la plèbe, qui viennent nous polluer avec leurs préoccupations. J'ai pas de PlayStation 5, les sites ne tiennent pas. Franchement, on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Non ?
Comme l'unboxing en temps réel sur le podcast.
Il est déjà en train de l'ouvrir, il est en train de sentir la manette et tout là.
Je pense qu'il là. Il a envie de faire une pause là. Tu veux alors, 10 minutes pour le temps d'ouvrir la boîte.
Je veux même pas vous dire ce que j'ai dû faire pour la récupérer cette console. Je sais même pas si elle va fonctionner. C'est pour vous dire à quel point ça a été périlleux. Mais en plus de ça, je vais pas. Maintenant, on est en plein dans l'émission, donc je vais pas arrêter pour la brancher. On fera peut-être ça en after show après avec avec tous les amis du Discord. Et donc, on verra si elle fonctionne, parce que je suis pas sûr. Et je ne l'ai pas payé 2 000 euros sur eBay. Je vous rassure, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais d'ailleurs, si vous avez une idée de tout ce que j'ai dû faire pour l'avoir, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou sur Twitter. Et pas de trucs salaces. Hein. C'est trop... Pas parce que ça me plaît pas. Bon, ça non, me plaît pas. Mais c'est trop facile.
Tout, mais pour la petite histoire, moi, je suis au courant de ce que tu avais pour avoir la PS1 il y a une vingtaine d'années. Donc, ouais, j'imagine à peu près.
Attendez, je vais vérifier. Parce que...
Je peux vous garantir que personne n'aura l'idée de ce qu'il est prêt à faire et le temps qu'il est prêt à passer pour avoir la console.
Il faudra qu'on ressorte les archives un jour. C'est marrant parce que chaque génération de console, j'ai des histoires incroyables. Pour la PS2, j'étais au Japon et j'étais allé à Akihabara faire la queue. Avec la PS1, c'était des trucs, mais des tarifs monstrueux qu'on avait. D'ailleurs, Dany est associé à mon histoire, hein. Comme vous le savez, il est dans ma vie depuis bien longtemps, Dany. La PS2, j'étais au Japon, on avait été faire la queue.
Surtout la PS1, c'est le jour où tu m'as dit ça y est, j'en ai trouvé une. On passait nos journées au téléphone. Hein. Ouais. J'en ai trouvé, il y a une boutique qui en a deux. Pff, on y allait direct. Hein.
Bon, alors, bref, ce qu'on disait, c'était, au moment où vous prendrez la parole, j'essaierai d'ouvrir le paquet pour voir si c'est vraiment ça, mais et là, retournement de situation, c'est des paquets de chips, exactement. Là, c'est le carton qui n'est pas le carton de la console. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était des questions de stock? Comme je le disais, Sony avait annoncé avoir 19 millions d'unités pour 2020, ce qui est beaucoup plus que pour la PS4. Et ils en ont vendu en précommande beaucoup plus que pour la PS4. Alors, il y avait des conditions un petit peu différentes, etc. Mais il n'y a pas de raison de douter que la PS5, il y a une demande beaucoup, beaucoup plus forte que sur la PS4, peut-être à cause du confinement, peut-être parce que le jeu vidéo est plus populaire, peut-être parce que l'excitation sur cette génération est plus importante, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que la demande est très, très, très élevée. Et bon, bah voilà, on va voir si ça continue. La Xbox est en rupture aussi un petit peu partout. Oui. C'est clairement quelque chose de très excitant pour les joueurs. Et il y a de quoi, parce que même s'il n'y a pas énormément de jeux nouvelle génération, les joueurs ont envie d'être excités par des trucs cool, je crois. Et c'est un moment de fête, quoi, finalement.
Ça. C'est ça, c'est un moment de fête. Il n'y a pas encore énormément de jeux, on en parlera sans doute tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses qui sont disponibles. Mais je pense que c'est un peu ce côté « je l'ai eu quand elle est sortie », le côté « cadeau de Noël ». Moi, quand je l'ai ouverte, les gens ils étaient là, mais on dirait une enfant, quoi. J'étais en train d'ouvrir mon truc, c'était limite si je ne versais pas une larme. Parce que, ouais, il y a ce côté un peu… C'est quand même… au-delà, par exemple, d'une sortie de jeu, etc., une nouvelle génération de consoles, ça marque toujours un grand pas, quoi. Ça marque toujours quelque chose, un tournant, une augmentation des graphismes, etc. Voilà, quelque chose de plus puissant qui va nous accompagner pendant 5 à 7 ans en fonction de la génération. Donc c'est quelque chose de fort, et comme tu le disais, je pense que tu le soulignais bien, moi je pense que le jeu vidéo, encore plus ces 6 dernières années, a subi une démocratisation assez folle. Je l'ai vécu parce que j'ai commencé le streaming il y a plus de 6 ans et demi. Donc, moi je suis arrivée en streaming, je venais d'avoir une nouvelle génération de consoles, et j'ai pu voir donc en travaillant là-dedans, toute l'évolution qu'il y a eu, ne serait-ce que via Twitch, quoi. Via Twitch, la démocratisation des gens qui ne sont pas forcément des gros gamers, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Et je pense que c'est juste la continuité logique, en fait, de l'évolution du jeu vidéo et le fait que ça touche de plus en plus tout le monde.
Ouais, il y a peut-être plus de gens, un public plus divers, plus varié, plus nombreux, ouais, qui s'y intéressent aujourd'hui. Ouais. Et puis peut-être aussi le fait que tout soit passé sur Internet, et du coup tout le monde a accès à tous les sites, et donc au lieu d'être distribué dans des dizaines et des centaines de magasins, tout le monde est sur le même site en train d'appuyer sur F5 furieusement.
C'est ça. Ouais.
Je précise quand même, c'était pas du tout calculé, voulu, qu'elle arrive pendant l'enregistrement. Hein. Dany pouvait pas à midi, on était censé faire bien plus tôt, et elle est arrivée par bus en milieu de la forêt. Enfin, je vous raconterai un jour, mais bref. Mais oui, par bus.
Non,
parce que
je connais cette histoire, moi.
Mais oui, on va. Non, mais c'est rocambolesque. Hein. Bon, écoutez, on a assez parlé des sites internet qui crachent. Dany, toi, tu l'as depuis un moment, j'imagine, mais du coup...
Non, alors du tout. Je l'ai eu aujourd'hui, en fait, ce matin.
Aujourd'hui ? Mais que s'est-il passé ?
C'est honteux. C'était le jour de la sortie officielle en Angleterre, donc voilà.
Tu m'as habitué à avoir le bras plus long, Dany. Je suis un petit peu déçu.
Et ce qui est marrant, c'est que j'avais les jeux PS5 la semaine dernière, déjà, depuis 7 ou 8 jours.
Mais il y a des records de vente sur le jeu. C'est ça qui est fou. Il y a plein de gens qui ont acheté les jeux sans avoir la console. Mais du coup, c'est à Trinity qu'on va demander. Quelles sont tes impressions sur cette console, alors ?
Alors... Pour que les gens sachent, donc moi je l'ai depuis à peu près une semaine. Elle m'a été envoyée par PlayStation pour pouvoir.
T'as de la chance que je l'ai eu, hein, parce que sinon là j'aurais pas tenu, j'aurais bouillonné. C'est privilégié, c'est bourgeois.
Non, alors je travaillais pour PlayStation. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais animatrice pour PlayStation pendant 2 ans, donc bon, ça justifiait une petite console un peu plus facilement. Mais quelles sont mes impressions ? Ça va pas être hyper objectif, hein, parce que forcément, j'ai ouvert cette console, j'étais comme une folle. Et alors, il n'y a pas énormément de jeux encore disponibles, bien évidemment. PlayStation m'a fourni Demon's Souls, Spider-Man et Sackboy. Et j'ai aussi du coup le dernier Call of dessus. Donc là, à l'heure actuelle, je me suis un peu focus sur Demon's Souls, le dernier Call of, et aussi mon Assassin's Creed Valhalla que j'ai passé dessus. Et mon impression, elle est juste excellente, parce que moi, Demon's Souls, c'était vraiment la sortie que j'attendais avec la console. Je suis très très fan de la série des Souls, et ce remaster, vraiment, il me chauffait, hein, si on peut dire ça comme ça. Et sincèrement, c'est le premier jeu qu'on a lancé, grosse claque, ouais. C'était trop beau. On parle que d'un jeu de sortie de console, d'un remaster. On n'est pas encore sur la super production qui a été faite exclusivement pour la PS5, vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment à fond, quoi. On est sur la sortie de la console, et j'ai trouvé déjà que le jeu était dingue. J'ai beaucoup aimé l'interface aussi de la console.
Je vais revenir sur l'interface dans une seconde, mais sur la question de Demon's Souls, c'est vrai qu'il y a énormément de gens pour qui c'est le jeu de la PS5 au lancement. Alors bon, il n'y a pas énormément de concurrence, donc je peux le comprendre, mais malgré tout, les impressions sont hyper positives sur le jeu. Non seulement il est très fidèle à l'original, mais en plus il le sublime avec justement ces graphismes un petit peu surprenants de next-gen, de premier début de next-gen qui fonctionnent, qui sont vraiment impressionnants. Et ça, c'était peut-être un peu inattendu. Je ne sais pas, moi, quand je vois les trailers, je trouve que c'est beau, mais je trouve pas, ça me met pas une incroyable claque. Est-ce que quand on le voit en vrai, c'est quand même un peu différent
je,
ou...
je t'avoue pas tout que, pardon, monsieur Patrick, que j'avais un peu la même sensation que toi en voyant les vidéos. Mmh. Ensuite, j'y ai joué d'un quart d'heure aujourd'hui juste pour voir à quoi ça ressemblait. Écoute, j'ai pas trop aimé Demon's Souls il y a longtemps. Hein. Il était chouette, mais trop.
C'est pas ton truc.
Try and die pour moi. Mais je dois t'avouer que ça m'a donné envie de m'y remettre et d'y rejouer. Graphiquement, c'est une vraie claque dans la gueule. Et tu...
C'est vrai.
Ouais, effectivement, le saut d'une génération à l'autre que j'attendais pas aussi impressionnant.
Ah oui,
parce que bon,
d'accord.
Quand tu vois Assassin's Creed sorti il y a une dizaine de jours sur PS4, bah, il est magnifique, il est super. Et tu dis oui, on a poussé la PS4 sans doute dans ses derniers retranchements. Effectivement, quand tu compares justement Assassin's Creed à Demon's Souls, tu vois qu'il y a quand même un fossé. Même si c'est pas le même genre de jeu.
C'est dans
pas...
la finesse, et... ouais. C'est dans ça. La finesse, il y a un truc.
Les alors, effets d'éclairage, de lumière.
C'est ça, on peut plus avoir des bons comme on les a eu à l'époque quand on passait d'une PS1 à une PS2, etc. On a tellement évolué que... Mais il y a, ouais, il y a cette espèce de finesse, c'est hyper fluide, mais alors vraiment hyper fluide, hyper beau, hyper détaillé. Alors en plus, sur un jeu comme Demon's Souls, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des boss magnifiques. Donc je trouve qu'en plus, ce jeu qui a un lore, des décors de dingue, des boss, je trouve qu'il est excellent pour mettre en avant tout ça, parce que c'est un jeu qui est très détaillé, très détaillé sur plein de points. Donc effectivement, on sent qu'on est passé sur une nouvelle génération, et je pense que effectivement c'est que le début quoi. Là on est vraiment au début de la console, et on va se prendre des tartes bien plus violentes après. Hein.
Ouais. Bah, surtout regarde quand moi je me souviens de Killzone sur PS4 à l'époque, je l'avais trouvé très chouette, mais pas totalement incroyable par rapport à une sortie PS3. Et quand tu vois le passage de Killzone à Assassin's Creed, entre les deux, il y a quand même, enfin c'est incroyable. Donc tu peux dire que s'il y a le même écart pendant la génération PS5 entre Demon's Souls et ce qu'il va y avoir à la fin de la vie de la console, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler, mais c'est classique.
Il y a de fortes chances qu'on voit le même type d'évolution, parce que les consoles next-gen, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X, elles en ont énormément sous le capot. On l'a déjà mentionné dans l'émission, mais il faut se souvenir que la PS3 et la Xbox One à l'époque, c'était des petites machines. C'était en équivalent PC, qui est un petit
en
peu...
Taille, le... hein,
en taille aussi. Ouais.
La PS5 est juste monstrueuse.
C'est un
elle est comparable
beau, hein.
À mon PC de bureau.
Ouais.
Elle n'est pas totalement disproportionnée et tellement plus petite que mon PC de bureau. C'est incroyable.
D'accord. Oui, c'est ce que tout le monde dit également. Hein. La taille, c'est un immeuble, c'est un paquebot, comme tu disais, Priscilla. C'est
ah ouais.
Bon. Sur la question donc des... Bon, Demon's Souls, on va peut-être pas faire toute l'émission dessus, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper, qui ont hyper hâte de le voir aussi. Avant de parler des autres jeux, peut-être, la question de l'interface, toi qui l'as donc depuis un petit moment, qu'est-ce que tu en penses au final de l'interface ? J'ai entendu qu'il y avait plein de bonnes idées, mais que sur certains aspects, c'était pas forcément encore bien implémenté, qu'il faudrait peut-être une ou deux itérations avant que ça soit vraiment naturel ou... certains trucs qui sont un peu plus durs à trouver.
Alors, moi, je t'avoue que je ne l'ai pas non plus exploré à fond, parce que j'avais trop envie de jouer. Donc, j'ai regardé un petit peu, mais je trouve qu'on reste quand même sur quelque chose qui ressemble en grande partie à ce qu'on avait sur PS4, un peu mis différemment.
Est-ce que tu as essayé toutes les vidéos d'aide, justement, il y en a, je plus 120, 180 dans Demon's Souls, ou alors toi, tu y vas là? Non, tu y vas...
Ah non, moi, j'y vais, je découvre... moi, je mets les deux pieds dans la boue et j'y vais, Donc, tu vois, j'aime bien explorer par moi-même. Après, personnellement, ça, pour l'instant, ce que j'ai vu de l'interface, moi, il n'y a pas quelque chose qui m'a choqué. Faut le temps juste de s'habituer, parce que c'est pas tout à fait placé comme c'était placé avant. Mais j'ai pas trouvé ça hyper gênant. En tout cas, j'ai pas galéré pour aller mettre mon code. Tu vois, tous les trucs un peu de base. Personnellement, j'ai pas du tout galéré. Voilà.
D'accord. Ok.
Oui, c'est une interface quand même, somme toute, assez proche de ce qu'on a sur PC.
Voilà, c'est ça.
Par contre, j'aimerais souligner un truc qui m'a assez énervé. Je l'avais lu à l'époque, mais je n'y avais pas réfléchi. Et finalement, le fait que la console avec la manette soit livrée sans câble pour charger la manette, alors que c'est un câble donc USB-A vers USB-C, ça peut être un problème pour des gens qui n'ont pas forcément, par exemple, un téléphone qui charge en USB-C.
Ah, il n'y a pas de câble USB-A vers USB-C ?
Non, il n'y en a pas. J'ai dit, alors peut-être que c'était un oubli dans ma console à moi, hein, mais heureusement que j'ai mon téléphone pro qui a ce type de câble.
Tu n'avais pas de câble de chargement de manette?
Non, j'avais pas de câble de chargement de manette.
C'est un oubli. C'est un oubli. Moi, j'en avais un.
Ah ouais, t'en avais un?
Ah ouais, je pense que c'est un oubli parce que moi il est branché là sur ma console justement.
Ouais, ok. Là... J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde alors parce que.
La chatroom confirme. C'est juste Dany qui a. Non mais regarde dans la boîte, il est peut-être au fond quelque part.
Ouais, ok, ok.
Ouais, tout le monde dit j'en ai un. Je viens de déballer, Eh, bon, bref. Peut-être en Angleterre, vous êtes privé de câbles avec le Brexit. Les câbles, ils sont en Espagne. Ils n'ont pas le droit d'être importés.
Tu as ta console, la manette n'est pas chargée, pas de
bol. Et tu ne peux pas la charger.
Pour aller. Et tu ne peux pas sortir facilement parce qu'évidemment, c'est le confinement. Tu es bon pour le commander sur Amazon et attendre 24 heures.
Mais super. Amazon qui a planté, tu vois, ça, donc c'est plus, bon, c'est fini. Tu joues dans une semaine, quoi.
D'autres jeux, est-ce que vous avez essayé Astro's Playroom? On en a parlé déjà un peu dans l'émission, mais c'est vraiment le showcase de la manette et tout le monde a l'air hyper positif sur la manette, justement. Bon, Trinity, toi, tu es affilié PlayStation, donc forcément, c'est pas objectif du tout, mais
ah non, je ne le suis plus. Je suis complètement objective. Je ne le suis plus et même quand j'étais affiliée, je tiens à le préciser, je travaillais aussi pour Xbox parfois.
Bien sûr.
C'est vraiment, je présentais des émissions, mais moi, j'allais un peu, voilà.
Un petit peu partout.
J'arrivais à garder une objectivité.
Je dis ça parce que j'ai bossé chez Blizzard pendant un moment, donc à chaque fois que je parle à un jeu Blizzard, les gens me disent « Oh, mais Patrick, pas objectif !» Alors que si, bien sûr.
Vendu.
Exactement.
Non, mais ouais, j'ai testé l'Astro, moi, pendant que Demon's Souls téléchargeait. Hein, forcément, vu que j'ai reçu la console en live. Donc, du coup, je testais pendant que ça téléchargeait. On n'a pas tout fait, mais moi, je le trouve hyper agréable, ce petit jeu. Enfin, c'est sympa, quoi. C'est sympa, et effectivement, c'est là que tu vois toutes les petites options de la manette, etc. On avait déjà eu quelque chose du genre, je crois, sur la PS4.
Il y avait eu Astro's... je ne sais plus, mais c'était le jeu PSVR qui était super innovant et super intéressant.
C'est ça.
Et c'est un peu les impressions que j'en ai entendues, c'est que c'est du Nintendo par Sony, quoi. Ils font de l'émerveillement avec des idées de gameplay, des idées d'utilisation du matériel auxquelles on n'est pas habitué ailleurs que chez Nintendo. C'est hyper enthousiasmant comme...
C'est ça. Non, c'était super sympa. L'univers du jeu est sympa. Et effectivement, tu vois toutes les possibilités de la manette. Qui est, cela dit en passant, parce que souvent on fait le comparatif entre les anciennes et les nouvelles, parce que moi j'ai aussi la Xbox et sensiblement la manette Xbox n'a pas changé. Mmh. La manette PS, on voit qu'elle a subi quand même un changement, un petit relooking, etc. Pas tout à fait exactement la même forme. Et on s'aperçoit aussi qu'elle est hyper sensible. Là, tu le vois vraiment quand tu testes dans ce jeu. Si vous voulez tester, je vous le conseille. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par ce genre de test de jeu, mais ça vaut vraiment le coup et c'est hyper ludique. Donc allez-y.
C'est effectivement, moi j'adore la manette Xbox sur la série X, vraiment, je prends, c'est ce que je disais dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait, youtube.com/notepatrick. Là, c'est pour moi ma manette préférée de toutes les consoles. C'est-à-dire que quand je reprends la manette PS4, la manette Xbox Series X me manque beaucoup. Il y a une petite texture, il y a juste le bon poids, il y a plein de choses. Elle est excellente. Mais la manette PlayStation 5, c'est là qu'on voit un petit peu la philosophie de génération. La manette PlayStation 5 a visiblement des nouveautés qui, pour une fois, ça tombe bien, pour une fois, fonctionnent et sont intéressantes avec les gâchettes adaptatives à résistance, le feedback haptique qui fonctionne. Et cet aspect génération est peut-être le point fort de la console à ce stade et dans le futur surtout, parce qu'aujourd'hui les jeux sont plutôt compatibles partout, etc. Mais ces éléments font que la PS5 est un petit peu différente de la PS4, là où la Xbox est dans la continuité de la précédente. Ça sera très intéressant de suivre pour voir comment ça évolue avec les années et la maîtrise des développeurs. Du coup, sur des jeux comme Call of Duty ou Assassin's Creed, je sais pas, bon, Dany, t'as peut-être pas encore eu assez de temps pour tester tout ça, mais les nouveaux jeux, d'une part, comment ils sont en version PlayStation 5. J'imagine que pour le coup, ça ne sera pas très différent de la version PS4, ou, enfin, pardon, de la version Xbox Series X. Et aussi, est-ce que, du coup, la manette, puisqu'on parle de la manette, tire parti, enfin, les jeux tirent parti de la manette. J'ai entendu que sur Assassin's Creed, ça marchait pas mal avec la résistance des gâchettes, ce genre de choses. Trinity, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester ça.
Alors, moi, Assassin's Creed, je viens de faire le portage sur la PS5, c'est-à-dire que j'ai pu transférer mon jeu de PS4 à PS5 avec le fameux pack HD, ouais. Donc je n'ai pas encore pu le tester. Moi, j'ai pu tester Call of, et effectivement, étant à la base une grosse joueuse de FPS à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais toujours une préférence quand même pour la manette Xbox, que je trouvais beaucoup plus maniable au niveau des gâchettes, etc.
Et avec la symétrique aussi, il y a effectivement...
Exactement, symétrie, voilà. Mais au niveau des... Alors, il y a toujours la même symétrie au niveau de la manette PS5, mais par contre, effectivement, les gâchettes, elles sont beaucoup mieux, elles sont plus grosses. Enfin, que ce soit les gâchettes, d'ailleurs, les R1, L1 ou celles derrière, hein, elles sont plus grosses et elles sont beaucoup plus adaptées. Surtout, je pense, aux joueurs de FPS, ils vont beaucoup plus apprécier cette manette-là que la précédente.
Mais la question de la résistance des gâchettes, ça, t'as pas... C'est vrai qu'elles sont... Bon, là, je la prends dans les mains en direct. Elle est beaucoup plus lourde que la PS4 et on l'a vachement mieux dans les mains. Elle est moins anguleuse, en fait, elle est plus en courbe. Mais la résistance des manettes, c'est pas utilisé dans Call of Duty, c'était surtout ça qui m'intéressait.
Bah, tu sais que j'y ai même pas fait attention.
Ah oui, c'est pas très bon signe. Hein.
Non, mais dans le sens, je n'y ai pas fait attention, mais justement, je pense qu'au contraire, c'est ce que je disais à mon conjoint quand il m'a vu jouer, il était là alors, et il m'a demandé pour la manette, et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, justement, moi, la manette de play pour les FPS, en général, il y a toujours un truc qui ne va pas, tu vois.
Je préfère oui, parce que tu es plutôt Xbox, ouais.
Au niveau des FPS, oui. Et en fait, bah, je lui ai dit, bah, là, tu vois, je n'ai pas cette sensation bizarre qu'il me manque un truc. Donc, je lui ai dit, c'est plutôt bon signe, parce que du coup, je trouve que la manette, en tout cas, moi, je l'ai très vite prise en main. Je n'ai pas capté le truc de la résistance et tout, mais tu vois, je suis allée sur Call of, je n'avais pas joué depuis super longtemps en FPS, je suis arrivée sur la PS5 avec la nouvelle manette, c'est passé crème direct. Hein.
D'accord. Donc, et du coup, voilà. Le jeu...
Mais la résistance, pas d'info, quoi.
D'accord, ok. Et le jeu lui-même, sympa, c'est un petit peu... Bon, toi, tu as l'air d'être une adepte. C'est ce qu'on lui reproche parfois, c'est de faire la même chose tous les ans. Moi, j'avoue que l'année dernière, c'était particulièrement réussi. J'avais beaucoup aimé le Modern Warfare de l'année dernière et les graphismes absolument fous, déjà sur PS4 à l'époque. Qu'en est-il de celui-ci, du Black Ops Alors, Cold War
Moi, personnellement, Call of, en fait, j'étais une adepte, mais il y a très longtemps, à l'époque de Black Ops 1. Et effectivement, moi, j'ai lâché après parce que je trouvais que c'était trop disparate. Ça ne me correspondait plus. Et celui de le dernier juste avant, j'avais un petit peu retouché. J'avais trouvé ça, effectivement, plutôt sympa. Mais il faut savoir que moi, je suis une joueuse de Battlefield à la base. Hein, donc,
d'accord, tout s'explique.
Voilà, et là, celui-ci, sincèrement, là, j'ai surtout joué, j'ai fait un petit peu de mode en ligne, mais j'ai surtout joué au mode zombie, parce que je suis une fan du mode zombie, et alors pour ceux qui aimaient le mode zombie, mais alors foncez, le mode zombie est excellentissime, le jeu est très beau. Alors, j'ai moins pris une claque, par exemple, qu'avec le Demon's Souls, hein, soyons d'accord, mais le jeu est très beau, le gameplay est excellent, mais après, ça, c'est pareil. Sur Call of, j'ai remarqué, il y a un peu les gens, vu qu'il y a plusieurs studios qui les développent en fonction du jeu, il y a des gens qui sont plus partisans des Black Ops, des gens qui sont plus partisans des Modern Warfare, et moi, personnellement, le gameplay Modern Warfare, je l'aime moins. Je suis plus gameplay Black Ops.
D'accord. Bon.
Donc, forcément, celui-là me plaît un petit peu plus. Et là, par exemple, tout à l'heure, je vais jouer au zombie, quoi. Plus qu'au mode en ligne, hein, faut le faire. Hein, mais moi, le zombie, je le trouve trop bon.
D'accord. Écoute, ça a l'air plutôt positif tout ça. Qu'est-ce qui reste dont on n'a pas parlé ? Assassin's Creed Valhalla, moi j'y ai joué un peu. On est concentré sur la next-gen, donc peut-être qu'on va parler de ces jeux-là. Il y a Destiny 2, Assassin's Creed Valhalla, dont on parlera peut-être quand j'y aurai joué un petit peu plus. Mais les deux, vraiment très bons, dans la continuité de ce qu'on avait avant. Destiny 2, évidemment, c'est toujours du Destiny, mais plutôt une extension réussie, je trouve, dans la partie narrative, et puis incluse dans le Game Pass, donc comme je le disais la semaine dernière, il ne faut pas se priver, c'est une super expérience. De l'autre côté, il y a Assassin's Creed que j'ai pris sur PS4 et je suis curieux de voir ce qu'il donne sur PS5. Mais c'est un petit peu plus dur. J'étais, comme les auditeurs le savent, un grand fan de Odyssey l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Et là, c'est, disons que tous les ingrédients y sont, mais je ne suis pas encore sûr que la sauce prenne. Il y a quelque chose de, d'incertain dans celui-là. Il y a du fun, certainement. Il y a des idées hyper intéressantes. C'est presque... Comment dire, on dit ça à toutes les sauces, mais c'est un petit peu Breath of the Wild 2 dans la manière dont on explore les éléments de la carte, parce qu'il n'y a pas d'icônes, enfin il y a des icônes, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. C'est un petit peu plus libre, comme le disait Emmerich la semaine dernière. Et puis il y a des éléments de Dark Souls avec le combat déjà qui avait été un petit peu initié dans les deux épisodes précédents, mais là qui sont encore plus présents avec des timings qui sont plus alors c'est pas Dark Souls hein, mais plus importants que dans les Assassin's Creed de l'époque. Mais Odyssey, c'était un fun immédiat qu'il était facile de... Comment dire, on rentrait dessus et c'était un parc d'attractions tout de suite. Et on s'amusait tout de suite. Si c'est notre truc, on extrayait le fun tout de suite. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. Donc, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'y ai passé déjà un bon nombre d'heures et j'y prends du plaisir. J'aime bien. Mais je me demande si c'est pas un peu plus... Je me demande si ça va me tenir sur les 100 heures que j'ai passées sur Odyssey, quoi.
Oui. Mais du coup, tu es resté dans la première zone pour l'instant ou tu as quand même avancé ?
Non, je suis sorti. En fait, c'est d'accord, marrant parce okay. que l'un des trucs qui me faisait jouer à Odyssey, c'était les décors qui étaient magnifiques, l'été en Grèce, etc. Et moi, je suis en Finlande, il fait gris tout le temps, le soleil se lève maintenant à genre 9h et il se couche à 3h30, c'est infernal. Et donc, la Norvège avec les étendues enneigées, il y a plein de gens, j'ai entendu, lu et regardé des reviews. Et les gens disent « Oh, les étendues enneigées, le blanc partout, c'est tellement beau !» Moi, je dis « Mais ouais, je veux du soleil, les gars !»
Je le vois tous les jours.
Exactement.
Moi, je me suis fait de la réflexion, parce que j'aime beaucoup. On voit pas, il y en a, mais on voit pas tant que ça, côté open world, tout enneigé, etc. Donc, personnellement, j'ai vraiment adoré. Mais moi, ce qui m'a fait kiffer, sans spoiler, hein, y a pas de spoil, les amis, mais le moment où on arrive en Angleterre, j'ai trouvé ça trop beau.
Ah ouais.
Et après, je pense qu'aussi, il faut avoir... Je pense que Assassin's Creed, il y a un truc... C'est aussi l'affinité que tu vas avoir avec l'univers qui est présenté. Moi, je me suis aperçue qu'en fonction de l'affinité que j'avais, le jeu, je le kiffais plus ou moins. Et là, je suis complètement fan de mythologie nordique, de viking. Donc moi, j'ai plongé dans l'histoire directement. Même si c'était un petit peu plus long qu'un Odyssey ou quoi, se mettre en jambes est un peu différent. J'aime tellement cet univers-là que j'adore, quoi, perso.
Je comprends tout à fait, ouais. Et c'est vrai que ça joue énormément, t'as complètement raison. C'est un des trucs qui me motive à continuer, et c'est vrai que l'arrivée en Angleterre, mais c'est les grandes étendues avec les plaines et les montagnes en automne, avec les couleurs d'automne et les arbres qui sont détaillés, c'est complètement... Le niveau de... performance qu'on atteint avec cette génération de consoles, mais c'est vraiment de la folie. On regarde. Alors, c'est pas complètement fou par rapport à Odyssey l'année dernière, mais quand même, en tant que jeu, c'est clairement... Ça nous en met plein les mirettes, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Dany, tu es bien silencieux depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur la PS5 et sur Assassin's Creed ou d'autres jeux ?
Bon, Destiny 2, j'ai pas essayé. Call of, il faudra que je le télécharge sur la PS5 maintenant que je l'ai pour essayer. J'ai pas encore vu.
Donc t'as réservé 450 gigas sur la console pour Call
voilà,
of.
Voilà, ouais, hein. Pour l'essayer une heure ou deux. C'est et ça. Virer ensuite. Hein. mais et Assassin's Creed, oui, je suis. En fait, mon ressenti est assez proche du tien, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, il y a un truc qui m'a plus fait accrocher. Côté Odyssey. Et moi, pourtant, tu vois, j'adore l'univers viking, même si j'aime bien aussi l'ambiance grecque et j'ai bien aimé aussi celui d'avant en Égypte antique. Mais je sais pas, il y a un truc sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt qui fait que j'accroche un peu moins, je suis moins motivé pour me dire, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est dingue. Je sais pas, peut-être que c'est ton implication dans le scénario ou la façon dont tout est amené et mis en place. Et peut-être un peu moins immersive, je sais pas.
Ouais, c'est compliqué hein, de mettre le doigt dessus. Moi aussi, je suis exactement dans ta situation. Tout y est. C'est pour ça que je dis, il y a une checklist des ingrédients qui fonctionnent, qui sont bons. Et c'est pas que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui n'apprécient pas les Assassin's Creed à la base et qui veulent hater le truc par principe et qui vont dire ah ben voilà donc il est pourri. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas que je m'embête ou que j'aime pas, c'est juste que ça prend moins bien ou moins vite que Odyssey à ce stade. Mais pourtant, j'ai envie de continuer, j'y passe du bon temps, donc je sais pas. Tu acquiesçais, Trinity, j'ai continué à parler.
Non, non, j'ai acquiescé, j'ai écouté vos arguments, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Un peu par rapport à l'histoire, mais c'est vrai que moi je l'ai pas forcément ressenti, ça a été un peu l'effet inverse. Après, je pense que c'est une question, tu vois. Effectivement, d'affinité, parce que moi ça me fait l'effet inverse, justement. Moi, Assassin's Creed, j'avais un peu avec Origins, j'étais un peu revenu, mais avant j'avais quand même un peu lâché. Hein. Ça m'a
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est Origins en fait qui m'a fait réessayer et me remettre dedans. Et Odyssey, c'était à mon avis le paroxysme, l'apogée en fait de la formule. Voilà. Ensuite, je sais pas, peut-être que parce que j'ai vu 8 saisons de Vikings, ou je sais plus combien il y en a, mais j'ai tout vu, peut-être parce que c'est moins dépaysant ou moins original que la Grèce antique, peut-être, je sais
c'est
pas.
Vrai que...
Oui, puis après, c'est pas les mêmes mécaniques, on parle quand même de personnages, enfin, je pense qu'il a perturbé certains joueurs de ce que j'avais entendu et qui... c'est le fait qu'on est des vikings et qu'on se retrouve avec une lame d'assassin. Il y a quand même un truc de base qui est un petit peu contradictoire.
Un peu bizarre,
moi, perso, moi, ça me dérange pas parce que j'attends pas forcément... Parfois, je suis pas très exigeante. Je me dis, c'est pas grave, c'est un jeu super. Je suis une viking super stylée. Et en plus, j'ai une lame d'assassin, c'est cool. Mais il y en a, c'est vrai que c'est... Il y a aussi ce petit truc-là où Assassin's Creed, même si par rapport à la licence de base, les jeux avaient déjà bien évolué par rapport à ça. Là, on est passé sur un autre step-up, quoi. On est sur une nation hyper violente avec des haches. Du coup, il y a cette espèce d'ambivalence entre... Il y a des moments où on brûle des villages entiers et on détruit des gens.
D'ailleurs, je t'avoue qu'il a fallu un moment que je réfléchisse à ce que j'étais en train de faire. Les premiers raids que tu fais, on en a tous entendu parler de cette mécanique de raid, mais... C'est marrant parce que ça te remet vraiment dans le contexte ou ça te met dans la tête la manière dont ça se passait. Alors évidemment, c'est un jeu vidéo, mais t'as une abbaye qui est tranquille, qui a rien demandé à personne, et ton personnage qui se dit « Oh, allez les gars, on va aller faire un raid, on va aller tous les tuer !» Et tu débarques et tu viens en hurlant. Bon, dans les fêtes, là, à ce stade du jeu, on est encore genre 15 dans notre raid et c'est pas l'impression d'invasion incroyable que j'aurais espéré. C'est un peu, on est 15 et puis nous, le joueur, on va d'un groupe à l'autre et puis on tape à un contre un. Je trouve qu'à ce stade, c'est moins réussi même que les combats qu'il y avait dans Assassin's Creed Odyssey où c'était deux, entre guillemets, armées l'une contre l'autre. Mais sur le principe du raid... Ça fait un peu bizarre, t'as l'abbaye dans ce décor magnifique, idéal, super bien rendu, qui est tranquille, et toi tu dis « Allez, on va faire un raid !» Et t'y vas et tu tues tout le monde et tu prends leur truc, c'est un peu...
Et là, tu t'aperçois que t'es un vrai viking, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais exactement.
T'arrives, tu veux juste prendre de l'or, quoi, et c'est tout.
C'était intéressant. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Comme je le disais, dans les semaines à venir, on reviendra un petit peu plus longuement sur chacun des jeux, mais aujourd'hui, on a pas mal de choses à couvrir. Je vais juste dire un tout petit mot sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau, le jeu donc qui sort demain sur Nintendo Switch. pour dire qu'il est plutôt bien testé, bien reviewé. Il a l'air d'être plutôt pas mal. On essaiera d'en parler la semaine prochaine. Ça fait vraiment énormément de choses qu'il faut couvrir, hein, ces moments-ci. Et puis, il y a même d'autres jeux qui vont encore arriver. Je ne les mentionne pas. Mais ouais, c'est l'avalanche, le déluge qu'on attendait. Et bah là, voilà, il est en train d'arriver, quoi. Alors, je voudrais faire une toute petite pause pour vous parler de quoi ? De Patreon. Et puis ensuite, on va continuer avec les news comme d'habitude. Et Patreon, c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moyen de soutenir l'émission. C'est un soutien financier direct à l'émission que vous choisissez. Vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous décidez si vous donnez 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Vous choisissez quand vous vous arrêtez. Vous pouvez vraiment, vous avez le contrôle entier. Et si vous appréciez l'émission, si vous trouvez que vous passez un bon moment quand l'émission arrive sur votre app de podcast, vous vous dites « Ah cool, là ça va être sympa d'écouter ça », et bien peut-être que ça veut dire que l'émission a une certaine valeur pour vous, que vous seriez un peu tristoun si elle n'était pas disponible cette semaine, si vous dites « Ah merde, j'ai pas mon petit rendez-vous jeu », et bien si c'est le cas, peut-être considérez l'idée de la soutenir financièrement, parce que non seulement vous deviendrez un élément actif de cette émission et vous serez parmi ceux qui lui permettent d'exister, et ça c'est une fierté évidemment qui n'a pas de prix je pense, mais en plus de ça il y a des bonus sympas, comme le fait d'avoir accès à un flux privé, où vous avez des contenus bonus, des émissions sans pub, les time codes pour passer d'une section à l'autre s'il y a une section qui vous intéresse moins, etc. etc. Donc allez y jeter un coup d'œil, patreon.com/rdvjeux, et le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire de votre mobile tout de suite, ou alors quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le petit bol et que vous enlevez vos chaussures, vous dites « Ah, ça fait cling dans le bol !» Patrick, Kling Patrick, c'est le moyen mnémotechnique pour vous souvenir que patreon.com/rdvjeux est un site à visiter. Je vous remercie tous et je remercie tout particulièrement ceux qui soutiennent déjà l'émission, auxquels j'envoie ce bisou spécial.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà. On continue avec une histoire peut-être un petit peu plus controversée, controversiale, controversante. C'est cette histoire de Twitch versus le DMCA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques semaines ou quelques mois déjà, Twitch a commencé à recevoir des centaines d'avis DMCA, c'est-à-dire des avis d'ayant droit de la musique, qui leur demandent de supprimer du contenu qui est disponible sur leur plateforme pour enfreint, parce qu'ils ont enfreint au copyright, au droit d'auteur, en utilisant donc de la musique dans les vidéos. Twitch a agi de manière assez brutale à l'époque. Ils ont supprimé énormément de vidéos archivées sur la plateforme, donc de streamers qui n'avaient rien demandé à personne, qui se sont retrouvés avec des contenus supprimés. Ils ont également dit « Les gars, c'est un petit peu la merde, supprimez, passez en revue votre contenu. » Et parfois, il y avait des centaines d'heures, des milliers d'heures de contenu à passer en revue et passer en revue. Et ensuite, supprimer le contenu dans lequel il y a du contenu qui enfreint le copyright. Et là, il y a quelques jours, ils ont fait une mise à jour sur ce problème en disant, en gros, c'était, de tout ce que j'ai entendu, c'était assez comment dire, mal géré, je vais être gentil. C'était assez mal géré parce qu'ils n'offrent pas vraiment de solution solide. Et en plus, ils disent, ils n'adressent pas le vrai problème qui est que il est assez difficile d'être certain de ce qui va se passer avec les contenus dont on parle. C'est-à-dire que l'infraction au copyright peut être envoyée pour des, tout un tas de raisons, comme bien sûr le fait d'avoir de la musique copyrightée en fond, ça, que ça soit des morceaux de musique normale, hein, de la musique pop, rock, métal, ce que c'est, de la musique simple, quand on est en train de streamer, bon ça c'est assez facile à comprendre, mais il y a aussi la musique en jeu, il y a aussi même de la musique, des effets dans les jeux qui sont issus d'une librairie d'effets qui est copyrightée, pour lesquels bah, le jeu a payé la licence, bien sûr, mais ils sont dans les listes de contenus reconnus par les plateformes, par les systèmes automatiques, et donc on peut recevoir des avis d'infraction pour ces contenus qui sont juste des effets sonores dans les jeux. Et donc, il n'y a pas vraiment de solution à ce stade, il semble. Je suis sûr que Trinity aura, enfin, peut-être que Trinity aura plus de clarté sur ce point, mais un des phénomènes marrants qu'on a vu émerger, c'est des streamers qui streament sans son, comme le recommande parfois Twitch, qui est inepte, mais qui streament sans son et qui font les effets sonores à la bouche, ce que j'ai trouvé assez drôle. Et bon, c'était assez comique, mais c'est anecdotique.
Oui. Moi, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai toujours pas attaqué la campagne solo de Call of Duty.
Ah oui.
Parce qu'en fait, on m'a dit, dans Call of Duty, c'est vrai qu'en général, ils utilisent des musiques assez connues, ça met dans l'ambiance, etc. Et on m'a dit, il y a du copyright, du copyrighté dedans. Donc, bah, j'ai fait, OK, bah, on ne fait pas la campagne solo. On m'a dit, fais attention, Spider-Man, il y a du copyrighté dedans. Donc, j'ai fait, Spider-Man, on va attendre. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation... Le sujet est très vaste, très large. Déjà, le problème qu'il y a eu, c'est que quand on nous a demandé de trier, effectivement, on s'est retrouvés... Enfin, moi, ça fait 6 ans et demi que je stream et que des gens font des... ma chaîne. Donc, je ne sais pas comment cette personne a fait. Il y a quelqu'un de ma communauté qui, sans que je lui demande rien, a trié absolument tous mes clips pour trouver tous les clips avec musique copyrightée dessus.
T'en as combien des clips à la louche, hein?
À la louche, j'en avais des centaines. Le boulot de dingue. Et en fait, j'ai pu les retélécharger. La personne m'a fait un lien et tout. Donc, elle m'a vraiment allégé d'un poids de dingue. Senza, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc, on croyait que le problème était à peu près réglé. Et là, en fait, il y a aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont supprimé leurs clips et qui se font strike quand même. Ouais. On ne comprend plus ce qu'on doit faire. Concrètement, sincèrement, on ne comprend plus, donc on ne fait plus rien. On est OK, on prend plus aucun risque avec les musiques. Mais ça, OK, je peux le comprendre. Il y a du copyright, on nous donne la règle, on l'applique. Le souci, c'est qu'on nous demande de remonter énormément en arrière, ce qui déjà est problématique. Qu'on ne nous offre aucun outil pour pouvoir faciliter ça, parce que moi j'ai essayé de regarder encore s'il y avait des clips. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter correctement dans les clips, enfin, c'est un peu compliqué.
Ouais, tu veux dire qu'au niveau de l'interface, c'est difficile d'y accéder, c'est pas prévu pour. Ouais.
Ben, c'est ça, moi j'ai essayé, mais j'avais pas l'impression d'avoir accès à tous mes clips parce que j'en cherchais un précis. Je savais qu'il y avait eu, par exemple, au The Event, je sais qu'à un moment j'ai mis de la musique copyright. Je me suis enflammée, j'ai mis de la musique copyright, et du coup j'étais là, il faut que j'aille supprimer mon clip, et je n'avais que la possibilité de supprimer tous les clips de ma diffusion. Et je ne voulais pas, je voulais en supprimer qu'un. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc effectivement, là, on est dans un espèce de brouillard. Il y a des gens qui se sont déjà fait ban, faut le savoir. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a une musique trouvée par le bot égale un strike, 2-3 strikes, banni. Voilà, c'est réglé. Donc,
c'est comme sur YouTube, en fait.
Exactement. Mmh. Exactement. Mais le truc, c'est que là, on a des années de contenu derrière. Donc, on est tous un peu... Moi, je vous avoue que parfois, je flippe, quoi. J'ouvre mes mails et je suis en mode, est-ce que je me prends un strike, en fait, pour un truc de 2017? Parce qu'il y a des gens qui sont pris des strikes pour des contenus de 2017, 2016. Donc, on attend. On sait que Twitch, à mon avis, travaille là-dessus. À mon avis, le problème, il y a des trucs qu'on ne sait pas sous-jacents entre justement le truc des copyrights et Twitch, mais ça m'a l'air extrêmement compliqué. Je pense que Twitch aimerait bien laisser passer les années avant et dire « OK, maintenant, à partir de maintenant, vous ne le faites plus ». Mais je pense qu'il y a d'autres enjeux derrière dont on n'est pas au courant.
Ce qui est...
Et du coup, ça en parle beaucoup.
Ce qui est assez frustrant, il y a des gens d'ailleurs qui disent est-ce que, dans la chatroom également, quand t'achètes le jeu, t'achètes la musique copyrightée et donc ça devrait passer, ça devrait pas être strikeable. Oui et non, parce qu'il y a une question qui est importante, c'est on achète le jeu pour son usage personnel, mais on diffuse cette musique à tout un public. Et je pense, pour moi, en tant qu'utilisateur, oui, clairement, ça a une valeur ajoutée et les développeurs en bénéficient. Mais ce n'est pas ça la question. La question est une question légale. Est-ce qu'on a le droit de diffuser cette musique au plus grand nombre ? Et je crois que la question pour la musique en tant que musique, comme je le disais, ne se pose pas vraiment. Je crois que ça fait des années que ça boue, que ça fait des années que tout le monde se gratte la tête en disant « Mais attends, sur Twitch, tout le monde peut mettre la musique qu'ils veulent et ça ne pose pas de problème. » D'ailleurs, Twitch paye pour la diffusion en direct. Mais ils ne payent pas pour les archives. C'est pour ça que les archives posent tellement de problèmes. Et c'est pour ça que c'est le cœur de cette problématique aujourd'hui. Mais ça fait des années et des années que tout le monde se dit « Mais comment est-ce que c'est possible que tout passe ?»
Si on part dans une logique comme il y a de base avec la musique, c'est un milieu hyper complexe avec beaucoup, beaucoup de... Voilà, si tu es un bar et que tu diffuses de la musique, ça dépend pour combien de personnes et puis si tu es tel truc, tel lieu. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais effectivement, à partir du moment où tu diffuses une musique à autre que pour un usage privé, il doit y avoir quelque chose de payé. Voilà. Ouais. Alors après, ça, on peut le comprendre. Pourquoi pas faire... c'est ce que j'expliquais à D'Info en live. Je disais, OK. Alors, il me disait, les streamers doivent payer un abonnement. OK, je veux bien payer un abonnement, mais comment le bot va s'apercevoir lui, il va voir une musique, il ne va pas faire la différence. Pareil, il ne saura pas faire la différence entre une musique dans un jeu et la musique que tu passes. Enfin, on est vraiment sur un truc qui est hyper compliqué et qui, pour moi, si la solution n'est pas trouvée rapidement, va peut-être même remettre en question un petit peu l'utilisation des musiques directement chez les éditeurs. Mmh. Parce qu'on est quand même, Twitch et toutes ces plateformes-là font partie d'un outil marketing énorme pour les éditeurs. Maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs qui passent par notre plateforme pour faire la promotion de leur jeu et ils s'aperçoivent que ça a un gros, gros impact. Si les gens ne streament pas leur jeu parce qu'il y a de la musique copyright et qu'on ne peut pas l'enlever, je pense que ça va aussi remettre en question tout ça. Mais bon, ouais, c'est vrai que là, ça fait quand même un moment qu'on est dans cette histoire. Ça fait bien 6 mois et on ne sait pas où on va.
Ouais. C'est...
Moi, ça me faisait penser en fait à. Récemment, j'avais regardé GTA 3 et 4, je crois, sur Steam. J'avais acheté, il y avait des soldes et tout pour vraiment pas cher pour les archives de vieillerie. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont enlevé en fait pas mal de morceaux dont les droits qu'ils avaient achetés à l'époque ont expiré.
Je trouve ça
assez incroyable que finalement un poids lourd type Rockstar doit faire ça. C'est pas surprenant finalement, mais j'y avais jamais réfléchi sous cet angle. Et je comprends aussi que si ça puisse impacter Rockstar pour des droits qu'ils ont payés il y a X années, ça montre aussi à quel point ce genre de choses peut être complexe et au point que ils ont enlevé quand même plein de bandes son.
Bien sûr, ça c'est le cas pour tous les jeux. Tu payes la licence du morceau de musique pour l'utiliser dans ton jeu pendant 10 ans. Alors le jeu qui est acheté, il est déjà acheté, c'est terminé, mais si tu veux rééditer le jeu 10 ans plus tard, c'est plus le même produit et les contrats sont faits de telle sorte que tu peux pas continuer ad vitam à utiliser, parce que c'est comme ça que c'est dealé, quoi. Il y a pas de l'industrie de la musique, on pourrait en parler longtemps, il y a certainement des problèmes, mais sur ces points, l'éditeur achète la licence de la musique pour tant d'années et pour tel produit. Donc, c'est normal. Et de la même manière, sur Twitch, le fait qu'on ne puisse pas utiliser des morceaux de musique comme ça, même en fond, même en machin, moi, j'estime que ça pose pas de... C'est même bénéfique au label. Et d'ailleurs, j'imagine qu'ils vont trouver un accord avec Twitch peut-être à un moment. Mais ce n'est pas à moi de décider comment quelqu'un qui est responsable d'une création musicale va donner le droit d'utiliser sa création musicale. Même si moi, ça ne me plaît pas, ce n'est pas à moi de décider ça. Moi, je décide comment les gens ont le droit d'utiliser mes podcasts. Tu vois, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre vienne me dire, même si je prends des décisions débiles et qui ne plaisent pas aux gens, c'est à moi qui en suis responsable. Donc, pour moi, tout ça, la question de la musique, c'est clairement quelque chose d'attendu et de normal. Même si c'est très très mal géré, on est d'accord. Là où ça me pose vraiment des problèmes, c'est pour les morceaux en jeu, les morceaux de musique en jeu et la manière dont les ayants droit qui ont donné la licence d'utilisation dans le jeu vont ensuite par derrière aller striker sur Twitch pour un jeu qui inclut leur musique. Là, ça me paraît aller trop loin, et je ne parle même pas des histoires d'effets sonores, de librairie d'effets. Là, ça devient
en fait,
ridicule.
Le souci, justement, vient qu'il y a un bot. Et c'est ce que j'expliquais en stream, c'est qu'il y a un bot, et en fait, il ne fait pas la différence. Lui, il capte juste la musique. Et il n'arrive pas à faire la différence entre cette personne ne respecte pas les règles ou ce son vient d'un jeu. Et c'est effectivement là qu'il y a tout le problème. Ouais. Parce que comment arriver à ce qu'une machine fasse la différence entre « Ah, mais là, le son vient du jeu, et là, il vient parce que la personne, délibérément, utilise une musique copyrightée.
Ouais. »
Et je pense qu'il va falloir effectivement qu'il trouve un arrangement.
Oui, moi, je crois que c'est ça, au final. Il va falloir qu'il trouve un arrangement. Twitch, c'est Amazon derrière. Déjà, Twitch, ils ne sont pas petits. Amazon, ils ne sont pas petits non plus. Le fait qu'ils aient géré comme ça, je trouve que c'est déjà pas super reluisant. Pour eux, mais j'imagine qu'il va y avoir, enfin il faut qu'il y ait un truc derrière parce que ça peut effectivement menacer l'équilibre de l'écosystème et il faut qu'il y ait une solution. On ne sait pas où ça va aller, mais il faut qu'il y ait une solution.
On espère, parce que moi normalement j'écoute du métal et là je passe des musiques lo-fi hyper calmes parce que c'est pas libre de droit. Voilà, je suis là.
Il faut des musiques libres de droit et il y a des librairies de musiques libres de droit qui existent que tu peux
même
utiliser.
Même Twitch en a fait une. Hein.
Tout à fait.
Même Twitch en a fait une, ils ont fait Soundtracked by Twitch. Donc voilà, ils
essaient quand même de trouver
des solutions temporaires. Ouais, il y a du métal, mais c'est pas le métal que j'écoute.
C'est bizarre, ça.
Écoutez, voilà. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, messieurs, dames. Moi, mon métal...
Non, mais bon, comme par... Celui que j'aime, c'est celui qui est copyrighté, en
évidemment,
fait. Donc,
évidemment, évidemment.
Voilà, c'est compliqué.
Bon, écoutez, comme vous le savez, il y a eu une sortie de console, enfin de machine de jeu absolument phénoménale cette semaine, et on va encore en parler un petit peu. Je parle, évidemment, de la... Game & Watch Super Mario Bros que j'ai précommandé et que j'ai reçu dans la joie et la bonne humeur il y a quelques jours de ça. Évidemment, c'est la news de la... Non, je vais même pas... Est-ce que je regrette de l'avoir acheté ? Possiblement. C'est mignon, la Game & Watch, elle fonctionne bien, c'est un petit Mario portable. En fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être à un moment la filer à mon fils, parce que c'est une machine électronique avec laquelle il pourra s'amuser quand il sera un petit peu plus âgé, et ne pas venir me bousiller tous les settings de mon téléphone et m'effacer des apps. Avec ça, au moins, il est tranquille. Je vais peut-être faire ça.
Quand même, il est chaud, Mario, hein. Il va ramer.
Hey. Tu sais de qui tu parles. Tu parles du fils de Patrick Béja.
Il tient son père, sans doute. Alors, c'est pour ça que
tu l'as payé. Tu l'as payé combien, par curiosité ? J'avais pas vu le prix.
Il était... Alors, c'est en Finlande, donc c'est plus cher. Je crois qu'il est à 50 euros un peu partout. En Finlande, il était à 70, je crois. Okay. Quelque chose comme ça. Okay. C'est un petit jouet marrant. C'est hommage. C'est presque pour l'exposer, quoi. Et ça fonctionne très bien.
C'est ça. Parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens vont y jouer 40 heures pour... Pour
c'est
faire
ça.
Tous les niveaux, tous les jeux.
Et il y a un jeu type Game & Watch de l'époque avec Mario qui doit attraper des balles. C'est mignon. Bon, moi, je suis tellement âgé que je les ai connus pour de vrai ces jeux-là. Donc,
moi, je les ai vus comme usés.
je suis sûr que tout le monde te croit, Dani. mais ceci dit, à côté de ça, Nintendo aux États-Unis a battu tous les records de vente. C'était leur meilleur mois en octobre. Donc bon, c'est marrant de voir que la Switch continue à exploser tous les records. C'est marrant parce que vraiment, on le dit parfois et je pense qu'il y a plein de gens qui le répètent et nous on le dit depuis un moment, mais cette année c'est une année incroyable pour les joueurs de jeux vidéo. En dehors du fait que les joueurs jouent beaucoup à cause du Covid, bon ça c'est une chose, en dehors du fait que les jeux eux-mêmes soient populaires et qu'il y ait plein de jeux intéressants cette année, et on va y revenir d'ailleurs dans une seconde, il y a des propositions et des évolutions qui sont folles dans tous les domaines, et il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif partout. Les consoles, on en a parlé, il y a deux propositions super différentes et intéressantes, avec essentiellement le Game Pass d'une part, et puis la PlayStation 5 qui fait des choses innovantes de l'autre côté. La Switch, évidemment, une merveille qui continue d'être une merveille alors qu'on ne l'attendait pas forcément avant la sortie. Le PC, on a eu les nouvelles cartes graphiques qui font un bond en avant avec les processeurs AMD qui font un bond en avant aussi. Le streaming qui commence à arriver. Enfin, je ne sais pas, c'est du merveilleux partout. Alors, je sais qu'il y a des problèmes dans le monde, mais si on se concentre sur les jeux vidéo, c'est incroyable. C'est l'une des... Ça fait des années qu'on dit que c'est l'une des meilleures années du jeu vidéo, et là, ça continue à se confirmer, quoi. Moi, je suis émerveillé.
Oui. Et puis, en plus, il y a Cyberpunk bientôt.
Alors, justement, Cyberpunk.
Tu veux dire en 2021, probablement pour les fêtes. Hein.
Dany ne jinxe rien. On a eu justement d'ailleurs une comparaison entre la Xbox One X et la Xbox Series X dans le dernier Night City Wire de CD Projekt Red. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder la vidéo qui compare les versions One X et Series X. C'est plus beau sur Series X, mais c'est une version... j'ai pas réussi à comprendre si c'était vraiment la version avec le patch qui va arriver dans un mois ou deux, en 2021, peut-être un peu plus tard, ou si c'était vraiment juste la version qu'on va avoir quand on va le mettre dans la console dans deux semaines. Mais je trouve que oui, il y a du ray tracing, mais c'est un petit peu, je ne sais plus si c'est JK ou je ne sais plus qui le disait dans l'émission, le ray tracing, c'est un peu le truc qui te paraît normal quand tu l'as sous les yeux. Mais quand on te l'enlève, c'est là que tu dis, c'est comme le 60 FPS, le 60 Hz, enfin le 60 images secondes. Et quand tu regardes en 60 images secondes, tu dis « Ah ouais, c'est cool, c'est bien. » Mais c'est vraiment quand tu passes en 30 images secondes que tu dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le ray tracing. Quand tu l'as, c'est super cool. Enfin, quand tu as la version Series X, c'est super cool. Quand tu reviens sur la version One X, en fait, si tu as juste regardé la version ancienne gen, tu te dis « Ah ouais, c'est cool, c'est pas mal quand même, c'est beau. » Et c'est quand tu es passé à la version supérieure et que tu reviens en arrière que tu dis « Ouh, c'est de la old gen, ça, quand même. »
Moi, je n'ai pas vu la vidéo, donc je peux pas attester.
Ouais. Écoute, je la passe en ce moment sur le stream. Bon, de toute façon, elle est facile à trouver. Hein. Mais je ne sais pas, c'est un peu cette impression que ça me fait. Là, on voit la version One X, le personnage de Keanu Reeves, par exemple. Bah, il ressemble à un personnage de, il faut dire, old gen maintenant. Hein. Ça y est, la PlayStation 5 est sortie aussi. Donc, il ressemble.
Il me choquerait même pas sur PS3. Tu vois, une fin de vie de PS3, graphiquement, Keanu Reeves, oui, ouais, il serait passé aussi. Hein. Ouais. Il aurait été chouette.
C'est le problème de ces jeux, et c'est peut-être le souvenir qu'on a de la PS3. Hein. Peut-être que si on voyait vraiment un jeu PS3, ça serait. Mais c'est le problème.
Les jeux PS2 sont magnifiques.
Mais c'est peut-être, oui, entre guillemets, le problème de ces jeux hyper open world, hyper ambitieux, c'est que forcément, si tu prends un élément individuel, évidemment, il va avoir moins de détails et de beauté graphique que si tu as un jeu qui a un cadre beaucoup plus réduit où on peut se concentrer à fond sur chaque petit élément de ce jeu-là. Donc,
les décors, en général, sont aussi souvent plus détaillés, plus jolis, plus impressionnants que les personnages eux-mêmes. Parce que finalement, tu as des dizaines et des dizaines de personnages, tu ne fais pas super attention s'il n'est pas très très beau, alors que les décors, ça participe beaucoup à l'immersion.
C'est vrai. Ceci dit, les personnages, en particulier dans les Call of Duty, dont on parlait tout à l'heure, ils sont incroyables. Hein. Les personnages, la modélisation des personnages, c'est complètement fou.
Clairement. Dans les cinématiques et tout aussi, c'était impressionnant. Ouais.
C'est une showcase next-gen, clairement. Justement, puisqu'on parle de série X, on parlait de rupture niveau PlayStation. C'est pareil sur série X. Il y a eu des séries d'interviews de Phil Spencer qui parlent de toutes ces choses-là. À la fois Jim Ryan chez PlayStation et Phil Spencer chez Microsoft parlent du fait que effectivement, ça a été très compliqué à gérer avec le Covid. Ça serait intéressant de voir quel stock ils ont eu, mais Spencer continue à dire que la demande est très élevée. Moi, je pense qu'ils ont moins de consoles en vente du côté de Microsoft que du côté de PlayStation, mais continue à dire que la demande est très élevée. Ils anticipent des ruptures de stock jusqu'au printemps. du côté de Microsoft. Et je pense que ça va être pareil du côté de Sony. Dans les deux cas, moi, j'étais convaincu qu'il y aurait du stock à la sortie. Et je suis très surpris que ça soit aussi compliqué. Halo Infinite, on a eu une annonce d'annonce. D'ici la fin de l'année, on devrait en savoir plus. La hausse des prix sur les jeux Microsoft, ils restent un petit peu flous. Ils ne veulent pas dire que les prix vont augmenter. Moi, je pense que ça va arriver à un moment. Le lancement s'est super bien passé pour Microsoft aussi. On a la comparaison, on a les confirmations. Le chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant dans le lancement de la nouvelle Xbox, c'était surtout 70% des possesseurs de Xbox Series X ou S sont abonnés au Game Pass. Alors, on sait que le Game Pass, c'est la merveille de cette génération de Xbox. Et évidemment, c'est les plus enthousiastes qui se sont précipités sur les consoles. Mais il n'empêche, 70% abonnés au Game Pass, c'est impressionnant, je trouve. Bon. Ensuite.
C'est une tellement bonne valeur aussi que. C'est pas ultra surprenant, mais c'est quand même un score incroyable. Hein. 70%, c'est énorme.
Ouais. Même si, bon, clairement, tu vas acheter une Xbox maintenant, oui, tu vas te prendre le Game Pass tout de suite. Quoi.
C'est probable, oui.
On commence à parler des jeux de l'année. Hein. J'avance un petit peu plus vite parce qu'on va finir sur les dernières news, mais on commence à parler des jeux de l'année, bien sûr, et le Game Awards, le show qui est en train de devenir le rendez-vous annuel, a annoncé ses jeux de l'année. Ça sera le 10 décembre pour le live des Game Awards avec Jeff Keighley, le meilleur ami de toute l'industrie. Les nominés pour jeux de l'année, il y a plein de catégories, hein, mais les nominés pour les jeux de l'année, je vous les liste. Il y a Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us Part 2. Bien sûr, il y a certains jeux qui ne sont pas dans la liste, comme Cyberpunk, dont on parlait tout à l'heure. Mais intéressant de voir qu'il y a, on va dire, allez, deux jeux et demi Sony dans l'histoire. Je compte et demi parce que Final Fantasy VII, c'est une exclue temporaire. Et un jeu Nintendo, un jeu PC avec Doom Eternal, et un petit indé qui est celui qui a surpris tout le monde avec Hades. Est-ce que cette liste vous convient ? Est-ce que vous y ajouteriez quelque chose ? On ne va pas déflorer nos listes de jeux de l'année, mais juste comme ça, à froid ou à chaud, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, j'ai joué à tellement de jeux que j'ai trop du mal à me rappeler tous les jeux que j'ai joués. Non, mais je trouve que c'est... Alors, moi, il y a des jeux forcément qui me parlent et d'autres moins. Hades, par exemple, n'est absolument pas mon style de jeu. Moi, à partir du moment où il y a The Last of Us dedans, tout va bien.
Hein. Je peux comprendre.
Mais c'est bien, c'est varié. On voit que c'est quand même très varié en termes de gameplay, en termes de graphisme, en termes de tout. Donc, au moins, on a quand même un paysage vidéoludique large et qui
est solide
peut,
là-dedans. Que des très très bons jeux, tu vois, qui sont en général bien accueillis par tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu vois, moi, je suis pas ultra fan de, par exemple, Animal Crossing, mais je reconnais que c'est quand même un des plus gros titres de l'année.
Dany, toi, il y en a un que tu ajouterais ou peut-être qu'on fera un épisode.
Je suis pas très objectif, hein, mais Persona 5 Royal, voilà. Bon, écoute,
pourquoi pas
très déçu de ne pas le voir.
Mais est-ce qu'on peut le compter ? Il est dans Best Role Playing Game dans la liste. Ouais. Est-ce qu'on peut le compter ? C'est un jeu qui est sorti sous version Persona 5 tout court. C'est une mise à jour de Persona 5. Est-ce qu'on peut vraiment le compter ?
Je pense qu'il est, il améliore beaucoup le jeu d'origine. Donc, oui, bon, c'est pour sûr toi, que si c'est... tu compares à l'autre RPG dans la liste par rapport à FF7 Remake, il est moins différent du matériel d'origine, mais du jeu d'origine, mais non, bon, écoute.
Bon, après, c'est toujours subjectif, hein. On en fait ce qu'on veut.
Très subjectif, voilà.
Un truc qui est intéressant sur ces dernières années, c'est qu'il y a la catégorie meilleur jeu continu, meilleur jeu service, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux de ce type-là dont on ne savait pas où les placer, parce qu'ils sont là tous les ans, et là, ils sont dans leur catégorie, c'est pas mal. Moi, je dirais qu'effectivement, la liste est intéressante. J'imagine que ça va être très très chaud entre Hades et The Last of Us Part 2, ce qui est quand même... dans le principe même, complètement fou, parce que se dire que Hades, qui est un petit... Alors, Supergiant, ils ont de l'expérience, mais un petit jeu indé qui vient concurrencer The Last of Us, qui est la méga grosse super production de Sony de cette fin de génération, qui est là pour tout casser. Je me demande s'il ne va pas y avoir beaucoup de gens qui vont avoir du mal à choisir, bon, entre tous les jeux bien sûr, mais en particulier entre ces deux-là.
À ton avis, ce sera les finalistes?
Je ne pense pas qu'on aura les chiffres, tu vois, de qui est premier, deuxième, troisième, mais en gros, je ne serais pas surpris que Hades soit le jeu de l'année, même pour une année où il y a toute cette concurrence incroyable. Je ne sais pas.
C'est possible, ouais. Moi, je miserais plutôt entre FF7 et Hades.
FF7
oh, Last of Us, quand oui. même.
Écoute, Trinity, Priscilla, j'étais un peu... Non, mais j'étais un petit peu offusqué de certaines choses que tu disais par rapport au fait que, tu vois, tu as eu la PS5 avant moi, tout ça, ça m'avait un petit peu... Enfin, avant tout le monde, je veux dire. Ça m'avait un peu frustré. Mais là, on se réconcilie. Là, quand même, voilà. J'avoue que The Last of Us est... Bon, on en reparlera dans notre épisode jeu de l'année.
Exactement.
Allez, quoi d'autre ? Rapidement, Apple a fait un coup de Trafalgar à Epic Games en annonçant qu'ils allaient baisser la commission qu'ils prennent sur les jeux et toutes les applications sur l'App Store à non plus 30%, mais à 15%. Mais attention, pas pour tout le monde, uniquement pour les développeurs qui font moins d'1 million d'euros ou de dollars par an dans l'App Store. Ce qui veut dire que l'argument de Epic, vous vous souvenez de cette histoire, hein, Epic qui a retiré son Fortnite de l'App Store parce qu'il voulait faire baisser la commission de 30% qu'ils estimaient trop élevée. Et ben Epic qui disait « Oh, mais c'est pour tous les développeurs et les petits développeurs, c'est une arnaque, c'est un racket, machin. » Et ben ils n'ont plus cet argument parce que les petits développeurs, ils ne payent que 15%. Et forcément... Epic et les autres hein, se sont insurgés en disant « Ah, mais c'est artificiel, c'est machin !» Alors évidemment qu'ils ne vont pas être contents, mais c'est marrant parce que cet argument que j'ai toujours trouvé un petit peu fallacieux, un petit peu, facile, ils ont des arguments pour dire qu'il y a un problème avec les commissions que prennent les App Store, très certainement. Mais l'argument « on le fait pour les petits développeurs », j'y ai jamais cru de la part d'Epic. Jamais vraiment cru. Et là, forcément, c'est politiquement très malin de la part d'Apple. J'ai trouvé ça assez bien joué d'un point de vue stratégique, on va dire. Quoi d'autre ? Vous avez vu cette histoire de cyberattaque sur Capcom
qui s'est fait... C'est impressionnant, oui.
Capcom a été victime d'une énorme cyberattaque avec un rançongiciel, je crois, ou en tout cas une... Oui, c'est bien ça, un rançongiciel, donc c'est un truc qui s'introduit dans vos systèmes informatiques, qui verrouille tout, qui vole toutes vos données et qui vous demande de l'argent pour débloquer vos données. On me dit dans la chatroom, non, ils n'ont pas retiré Fortnite, ils n'ont pas respecté le règlement et de ce fait, ils se sont fait mettre dehors. C'est vrai, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais t'as raison. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais donc, le rançongiciel chez Capcom, donc, qui a locké tout leur système, et une énorme fuite de données. Et du coup, ils ont publié des informations, ces vilains rançonneurs. Comme par exemple, c'était quoi les infos qu'on a eues je sais plus quelles infos spécifiques on avait eues qui étaient intéressantes. La non-exclusivité de Monster Hunter Rise. Qui ne serait pas donc exclusif Switch. Monster Hunter Stories 2 arriverait aussi sur PC, comme Monster Hunter Rise. Le prix qu'a payé Sony pour avoir Resident Evil 7 sur VR, ça aurait été 5 millions de dollars de la part de Sony. C'est marrant parce qu'on n'a jamais ce genre de prix pour ces deals-là. Et puis, on a eu des informations sur... Il y en a d'autres, hein, mais on a eu des informations sur le fait que Capcom serait en train de développer... Quel type de jeu, à votre avis, en ce moment ? Qu'est-ce qu'on développe ? Qu'est-ce que tout le monde développe ? Un Battle Royale, effectivement, basé sur...
C'est ce que j'allais dire un BR.
Et oui, basé sur l'univers de Resident Evil. Pourquoi pas ? Pour être
Moi, ça commence à
avoir assez des Battle Royale, pour être honnête.
Mais moi aussi,
il y en a trop. C'est comme les zombies et les séries de zombies ou les super-héros pour moi.
Ouais, mais ils peuvent quand même avoir une idée. Enfin, tu vois, oui et non. Parce que par exemple, moi, j'adore les films d'horreur, j'adore les films de zombies. Il y en a beaucoup, il y en a des bons et des moins bons. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition, eh ben, je pense que c'est pareil dans le jeu vidéo. Si la proposition est intéressante et que ça colle à un univers que tu kiffes, Tu vois, moi, quand tu me dis un Battle Royale sur le thème de Resident Evil, peut y avoir un truc super intéressant. Parce que moi, les modes, par exemple, de Resident Evil, où tu avais des vagues de zombies et tout, déjà, j'adorais, tu vois, ces modes-là en dehors du jeu. Pourquoi pas, tu vois. Bon, même s'il y en a marre des Battle Royale, il faut le dire. Mais quand même.
il faut vraiment qu'ils arrivent à sortir quelque chose d'un peu original,
ouais,
qui sort du lot et qui apporte quelque chose de nouveau. Si c'est juste, tu vois, Fortnite reskiné, bon, écoute, ouais, bof.
Mais je crois que le Battle Royale est un genre tellement versatile, je crois qu'il y a toujours possibilité de faire des choses. C'est un peu comme quand tu regardes ça de l'extérieur, quand t'es pas super fan des Battle Royale, tu vois ça et puis tu dis, oh, encore un, rien à faire. Mais quand t'es dedans, bien sûr, il y en a qui tentent des trucs et qui n'y arrivent pas, mais quand tu joues à Warzone, c'est pas la même chose que quand tu joues à PUBG, ou c'est pas la même chose que quand tu joues à Fortnite, même en dehors du fait qu'il y a la construction dans Fortnite. C'est comme si on parle de jeux de combat, par exemple. Dany, je sais que ça va te parler. Quand tu prends de l'extérieur un Call of Duty ou un... un King of Fighters, c'est un cas off, un King of Fighters ou un Street Fighter, pour nous, c'est clairement pas la même chose, mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est
possible,
genre.
Oui. C'est vrai.
Mais ce que ça veut dire,
comme jouer à Tekken ou à Soul Calibur, oui, c'est des grosses différences pour nous, mais effectivement, quelqu'un qui s'intéresse pas forcément à ça, c'est ouais, encore un jeu de baston, ça suffit.
Ce que ça veut dire peut-être, c'est que ça va pas forcément attirer un nouveau public, c'est que ça parle aux gens qui sont déjà intéressés par ce genre de jeu, mais on n'est pas à l'abri, comme le disait Trinity, d'un truc original et puis de la licence Resident Evil qui fera que peut-être d'autres personnes s'y intéresseront parce que c'est Resident Evil et qui vont découvrir le plaisir des Battle Royale, même s'ils y avaient été un petit peu plus hermétiques avant, donc...
Et moi, je vous avoue que s'ils arrivent à trouver un équilibre entre ce qui faisait le charme de Left 4 Dead et son intensité en arrivant à transférer ça en Battle Royale, pourquoi pas ?
C'est vrai que, par exemple...
Quel bonheur.
Mais ouais, Left 4 Dead, c'est un bonheur qui n'a pas été...
incroyable.
Ouais. Et il n'a jamais été repris. Alors, je sais qu'il y a Vermintide et ce genre de choses, et GTFO et d'autres jeux qui ont essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas pris autant. C'est vrai que ça pourrait être intéressant.
J'aimerais bien qu'ils en sortent un nouveau, voilà.
Ah oui, bah ça... Écoute, je pense
là,
que...
c'est mal barré.
On n'est pas les premiers à faire un hâte Steam Games. Qu'est-ce que vous foutez, quoi.
C'est ça.
Il sortira un peu après Half-Life 3, je pense.
C'est ça.
Écoutez, je pense que pour la prochaine génération de machines, on n'est pas trop mal barré. Je dis ça et en même temps, pendant que je le dis, je sens qu'il y a les cerveaux de joueurs PC qui explosent parce que l'idée que Half-Life 3 soit lié à une prochaine génération de consoles, c'est inimaginable. Mais non, c'est vrai, ça sera sur PC, je vous rassure. Bon allez, quelques données pour terminer. Deathloop sortira sur PS5 le 21 mai 2021. C'est un jeu qui avait l'air intéressant, le jeu d'arcane, sur PS5 et PC bien sûr, donc il a une date. Fall Guys s'est vendu à 10 millions d'unités sur Steam uniquement. Vous savez qu'il était offert avec le PlayStation Plus il y a quelques mois de ça. 10 millions sur Steam, complètement fou Fall Guys. PlayStation 5 et Xbox au Japon, les ventes, c'est pas la folie, hein. Les ventes, c'est 120 000 PS5 et 20 000 Xbox. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est a priori contraint par les stocks disponibles. C'est beaucoup moins bien qu'à l'époque de la PS4. On en reparlera un peu avec Oscar Lemaire la prochaine fois qu'il sera dans l'émission, notre statisticien national du jeu vidéo. Mais oui, c'est beaucoup moins que la PS4, mais a priori, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de stocks disponibles au Japon spécifiquement. Et puis, si mes souvenirs sont bons, la PS4 avait elle-même démarré assez lentement parce que les Japonais étaient assez peu prompts à changer de machine. Et puis là, sachant que la PS5 fait la taille d'à peu près une chambre d'un appartement japonais, voilà, c'est ça. C'est ça qui est compliqué au Japon.
Ça coûte donc, cher, en fait. Les 500 euros de la console, c'est pas trop grave. Le déménagement avec, ça commence à devenir cher.
Je peux vous dire qu'au Japon, entre l'assurance, la kimoni, l'argent de l'agence immobilière, etc., un déménagement, ça vous coûte 6 mois de loyer. Hein, donc,
Ah ouais, non, c'est un truc de dingue. Ouais. Moi, j'ai regardé pour aller y habiter, ça fait pas
Ah oui, c'est, oui. Moi, c'était il y a bien longtemps, mais oui, ça n'a pas tellement changé.
Non,
Bon. Et je vous rassure, pour ce dernier sujet, il y a une alerte à la bombe ou une prise d'otage chez Ubisoft Montréal que vous avez peut-être vu passer la semaine dernière. Au final, il s'est trouvé que ça n'était pas le cas. On n'a pas eu les détails. On ne sait pas si c'était un hoax ou un canular mal inspiré ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il n'y a pas eu effectivement de prise d'otage à Ubisoft. Donc, si vous avez vu passer ça et que vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire, tout va bien. Voilà pour cet épisode. Écoutez, un épisode plein de nombreux rebondissements qui n'ont pas du tout été scriptés, qui étaient complètement naturels. Je vous remercie, Dani et Priscilla, d'avoir été dans l'émission. On va se quitter là. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, avant ça, où on peut vous retrouver sur Internet ? Honneur aux dames, Trinity. Dis-nous tout.
Eh ben moi, toujours pareil, vous pouvez me retrouver sur Twitch au pseudo Trinity avec un Y à la fin, tout simplement. Je live quasiment tous les jours. Et puis après, il y a mes différents réseaux sur cette page. Ce sera facile de me trouver.
Super. Et on mettra le lien vers le compte Twitter au moins dans les notes de l'émission. Dani, où es-tu sur Internet ?
Eh ben c'est très simple, je suis sous Twitter, le handle c'est @notdany, N-O-T-D-A-N-Y, comme toujours, facile à retrouver, puisque je suis un de tes nombreux followers.
Merci beaucoup Dani d'avoir été là avec nous. Pour ma part, c'est NotPatrick, un petit peu partout, hein, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, ou alors Twitch pour suivre cette émission en direct, ou même YouTube. Vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos que je fais toutes les semaines à peu près, la dernière étant sur la Xbox Series X en tant que joueur PlayStation, ce que j'en pense, elle a eu l'heure de plaire, donc si ça vous intéresse, c'est youtube.com/notepatrick et tous ces liens sont aussi sur notepatrick.com, c'est très simple à retrouver. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord qui est lui aussi en lien sur notepatrick.com. Dans le Discord, on s'amuse bien, on se soutient les uns les autres, on se serre les coudes, et puis pour les membres du Discord au niveau 2, on va faire l'after show juste maintenant, qui sera disponible pour tous les gens qui soutiennent sur Patreon. Et ça, j'en profite pour vous rappeler que patreon.com/rdvjeux, c'est le moyen de soutenir l'émission et du coup d'avoir accès au bonus de l'émission avec cet after show où on va discuter, bah, on va voir de quoi, mais je pense que ça va être très sympa. Et puis après ça, je ferai peut-être l'unboxing donc de cette PlayStation 5. On continuera sur Twitch, sachant que juste pour préciser, le sacrifice que j'ai fait pour vous, public, et pour vous, Dani et Priscilla. La console donc est arrivée quand on a commencé l'émission. Là, bah, il faut faire l'émission. Après, il y a l'after show, etc. Et après ça, mon fils revient de la crèche. Donc, je ne vais pas pouvoir ni la brancher, ni rien, jusqu'à pendant encore plusieurs heures.
Et non, je ne sais même pas si tu le laisses à la crèche, hein, tout seul, noir, dans le froid et le noir, et tu vas le chercher vers 21h-22h.
Écoute, je suis content déjà que l'électricité est tenue, parce qu'il y a un orage de folie dehors. C'était tous les éléments qui se réunissaient pour essayer de faire en sorte que je n'ai pas ma console. Il y a un orage de folie. Lui, le pauvre, il a vu un truc qui lui a fait peur, et maintenant il a peur de la pluie. C'était terrible ce matin, je l'ai sorti, je l'ai amené à la voiture. Il disait « Oh, j'ai pas la pluie, je veux pas, papa, s'il te plaît !» Je disais « Écoute, tu vas à la crèche, moi j'attends ma PlayStation, hein, ça suffit ces histoires. » mais donc là, bon, malheureusement, ma cruauté n'est pas égale à la tienne, Dani, donc je vais pas le laisser quand même sous la pluie alors qu'il déteste ça. Bon, je suis contraint d'être un humain, un parent bienveillant. Bon. Sur ces bons mots, je vous souhaite de bonnes journées de plaisir si vous avez une PlayStation 5. Appréciez quand même votre console ancienne génération en vous disant que vous pouvez jouer à quasiment tout ce qu'il y a sur les nouvelles si vous n'avez pas réussi à avoir une ancienne. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et puis on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises à tous. Ciao, ciao.
Hey, As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.